Bonjour, nous sommes sur Alire FM 93.1 dans La vie est un roman. Et ce matin, nous recevons Thierry Marignac pour son livre Photo passée qui vient de sortir et Daniel Malrin qui a eu la gentillesse de venir, l'amabilité et qui connaît bien le sujet à la fois des livres et de la.
Et le type.
Et la carrière de Thierry Marignac. C'est donc le 22e livre de Thierry Marignac qui a publié 85 traductions et qui a réalisé un documentaire sur Norman Mailer. Donc c'est l'essentiel. Et donc ce livre est aussi, totalement résumé par sa couverture. C'est une photo reproduite plusieurs fois, comme sur une espèce de. Le déroulement d'un film, disons, imaginé de la pellicule Super 8, pour ceux qui ont connu cette chose, et on voit l'image qui se répète. Et c'est un. On a une dame qui tient un bébé dans les bras et un monsieur qui tient un bébé dans les bras. Donc, et le titre du livre est Photo passée. Et je suis très content que Daniel soit venu pour nous parler de Thierry Marignac, parce qu'il connaît mieux le sujet que moi. Et tu voudrais peut-être nous résumer le parcours de Thierry, si tu veux
ah
bien.
Ah non, pas du tout. Non, il va le résumer lui-même. Moi, je ne peux pas faire ça.
Vous préférez qu'on parle carrément du livre et qu'on passe ces 28 minutes qu'on va passer ensemble sur le livre lui-même.
C'est quand même le livre, c'est l'actualité, quoi.
D'accord. Et donc, le livre est une quête, tu grandis et à un moment donné, tu t'aperçois que ton père n'est pas ton père et que tu es un bâtard et que tu avais un autre père. Et cette photo envoyée par une dame que tu appelles la sœur de ta mère, en général on dit ma tante, mais ce terme revient tout le temps.
Oui, mais là je voulais c'est justement préciser la sœur de ma mère, c'est parce qu'elle avait un savoir réel sur ce qui s'était passé au moment de ma naissance. Donc c'est pour ça que j'ai insisté sur la sœur de ma mère.
Elle était présente, elle cohabitait les deux.
Voilà.
Et donc on a une jeune fille avec un monsieur de 50 ans qui fait une infidélité conjugale et qui, au bout de 6 mois, va disparaître de la vie. Tu me corriges si les dates sont... les faits sont inexacts, mais
bah écoutez,
je viens de finir le livre, je l'ai lu attentivement.
De toute façon, tu sais, j'en sais pas tellement plus, alors je vais pas pouvoir te corriger beaucoup. Si j'ai découvert que le pont... devant lequel sont ces deux personnes qui me tiennent dans leurs bras, c'était le pont de Villeneuve-le-Roi. C'est un ami éditeur qui l'a trouvé, comme ça, m'a envoyé la photo. C'était très, très touchant.
Et donc, d'abord, tu grandis avec quelqu'un et tu vas te révolter, il va y avoir une crise qui va être centrale. C'est justement là où la sœur de ta mère va révéler cette chose, parce qu'elle va te révéler pourquoi l'osmose familiale n'a pas lieu. Qu'est-ce qui fait de toi que elle va essayer de...
C'était pas si clair comme elle en a pas parlé aussi clairement que ça. Elle m'a de toute façon c'est quelqu'un d'extrêmement lapidaire, donc elle m'a lâché le morceau sans donner beaucoup de détails d'ailleurs. Et il y avait le fils de Marignac qui était là aussi qui m'a dit ouais pour moi t'es né à 2 ans. Et voilà c'était un peu tout. Comme j'ai écrit dans le bouquin. Je suis défoncé à cette époque-là, j'étais en manque, j'avais envie d'aller me procurer de la dope. Donc je comprenais pas très bien ce qui leur arrivait. J'ai bien senti qu'ils pensaient que j'allais exploser. C'était pas du tout le cas. Ça m'a laissé à peu près indifférent. Et ça m'a laissé indifférent pendant très très longtemps. C'est pour ça que ce bouquin, il est centré autour de cette histoire-là. La photo en est le prétexte. Mais en réalité, après, en revenant sur mes pas, en faisant l'enquête à rebours, je me suis rendu compte que, bon, c'était un livre autour d'une absence. Alors ça, c'est drôle, ça me plaît. C'était un livre autour d'une absence, un fantôme. Et alors, c'était plus la façon dont... finalement, ce qui comptait d'une certaine manière, c'est plus la façon dont moi je me suis constitué à partir de cette absence que sur le personnage lui-même et même les détails de l'histoire familiale qui, au fond, m'ont largement indifféré pendant très longtemps.
Et donc, tu as une jeunesse rebelle avec l'arrivée de la poudre, de cam assez dure, dont tu te détaches assez vite, en fait, et tu vas devenir, par exemple, boxeur amateur, tu es en lisière de ça, et tu as réalisé aussi, je n'ai pas dit, tu as réalisé un livre, un documentaire, quelque chose sur les junkies en Ukraine.
Oui, j'ai fait une enquête sur la toxicomanie en Ukraine en 2004. C'était un peu la suite logique. J'avais des comptes à régler avec les histoires de poudre. C'était pas passé. y a un de mes copains qui est mort à ce moment-là des suites de ça. Et je le digérais pas. Et donc j'ai monté toute cette histoire pour aller faire une enquête de plusieurs mois en Ukraine, à l'époque de la Révolution Orange, ça fait donc 20 ans. Et ce que j'ai vu était tellement saisissant, parce que c'est un pays très pauvre, que ma tristesse, mon accablement et tout ça s'est passé en vérité presque tout de suite devant les abîmes que je voyais.
On peut dire aussi, pour te situer, que tu as été ami avec Édouard Limonov.
Oui, c'est pas un scoop.
enfin, pour les gens qui nous écoutent.
Oui, oui.
Qui te découvrent, je sais pas. On essaye de parler aux gens qui te découvrent.
Oui, bien sûr. Non, mais je plaisante. Ne vous inquiétez pas. Non, mais parce qu'il en était pas mal question. Oui. Ça a été un des premiers écrivains professionnels que je connaissais. Et moi, je voulais écrire. Et donc, c'était très fascinant. On est allé avec un autre copain l'interviewer en 1981. Vous voyez, il était arrivé, ça faisait 3 mois qu'il était à Paris. Il venait de publier son premier bouquin chez Pauvert, en France. Et il connaissait personne à Paris. Et donc, quand il connaissait personne, il connaissait son attaché de presse, son éditeur et tout ça. Mais lui, il a toujours été curieux de la population véritable. Et donc, il s'est lié avec mes copains, ma bande, très rapidement, parce que c'était un point d'observation de la société parisienne pour lui.
C'était le poète russe que les nègres préfèrent, c'est ça
le titre ? Le poète russe préfère les grands nègres.
Oui.
Parce qu'ils avaient trouvé ce titre-là avec Pauvert, sur le modèle de « Les hommes préfèrent les blondes ».
Et donc, c'était un livre vraiment très habité. Et enfin, qui fonctionnait bien dans le genre de la provoque, le côté punk. Hein, on est en 81, donc on n'est pas loin de 79. Et donc, oui, on a une structure familiale qui se dissout, après on a un milieu à la marche, et après une forte puissance de travail aussi. Vous allez,
ouais.
tu vas beaucoup travailler, tu vas devenir un garçon extrêmement vaillant et productif. Je suis très impressionné.
Tu
vas faire une licence, tu vas aller à l'INALCO apprendre le russe, enfin tu vois, t'es quand même
qui bataille
et qui gagne.
Moi qui avais la réputation de jamais rien foutre quand j'étais jeune, j'ai fini par énormément travailler. Je sais pas, c'est aussi, ça fait partie de, comme dit quelqu'un, c'est une expression un peu solennelle, mais de la quête d'identité. On en manque, on se constitue avec, en faisant des tas de recherches, en allant dans des tas de directions, et puis aussi la nécessité de survivre matériellement.
Ça commence par le journalisme, c'est ça, des documentaires de ce type-là.
Oui, des piges, et puis après les romans, et puis après des traductions, et puis à un moment les traductions ça se tarit, donc j'apprends une autre langue, et je me lance dans des trucs du genre l'enquête sur la toxicomanie en Ukraine. tout ça, c'était à chaque fois, c'était une façon de rebondir et aussi de gagner 3 sous, hein, quand même, franchement. Et même ce livre-là, je vais vous dire la vérité, j'ai reçu la photo le 22 février 2022. 2 jours après, je vivais de traduction de russe à ce moment-là. 2 jours après, il y a l'opération spéciale en Ukraine. Je me dis, oh, la traduction de russe, ça n'a plus marché là pendant un certain temps. Ben, j'ai une histoire à raconter. Et j'ai écrit ça, photo passée.
Il y a donc aussi dans le métier de traducteur aussi une particularité, une caractéristique extrêmement comment dire, originale, c'est que tu traduis de l'anglais et du russe. Tu traduis des auteurs américains et des auteurs russes, c'est-à-dire qu'on retrouve le goût qu'on avait quand on avait 18 ans, enfin peut-être plus jeune, quand on avait 16 ans pour la littérature qu'on lisait justement Norman Mailer et Dostoïevski. Ouais. Moi qui ai 10 ans de plus que toi.
Oui, je sais pas. En plus, mais dans le punk, puisque tu t'en souviens, dans le punk, il y avait une esthétique assez soviète.
Je suis d'accord, bien sûr.
Ils aimaient bien les
McLaren, il a joué là-dessus. Il les avait habillés en...
Beaucoup.
Ouais. Et bon, c'était kitsch, quoi. C'était l'idée que c'était très kitsch.
Oui, c'est ça. Et Holidays in the Sun, c'est une chanson sur le mur de Berlin.
Ouais.
Donc il y avait ces deux prismes-là, effectivement. Le prisme anglo-américain et le prisme russe. Bon, moi, j'étais comme tout le monde, je pense. Et puis, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout dans ces recherches. Ça me ressemblait un peu, parce que tout le monde était plus ou moins, connaissait plus ou moins ce genre de choses. Où je me souviens, à l'époque, forcément, chez les Camés, il y a un bouquin qui était très populaire, c'est Le Feu Follet de Drieu. Et donc, tout le monde l'avait lu, on l'a tous lu. Mais moi, je suis allé beaucoup plus loin. J'en ai appris beaucoup, beaucoup plus, beaucoup très vite sur Drieu. J'étais celui qu'il connaissait le mieux. Donc, dans ces affaires de traduction anglo-américaine, c'est évident que j'allais aller beaucoup, beaucoup plus loin. Parce que, de nos jours, tout le monde parle anglais, hein, encore pire qu'il y a 30 ans, mais de toute façon, il y a beaucoup de concurrence dans les traducteurs. Oui, moi... Je me suis spécialisé dans l'argot. Et là, il y a beaucoup moins de monde.
Oui, donc un argot noir, tu veux dire ? Je ne sais pas comment on dit maintenant. un argot...
Ah, j'en connaissais beaucoup. Je connaissais l'argot irlandais, l'argot...
On parle des États-Unis, là.
Oui, ouais. L'argot irlandais, l'argot New Yorkan, c'est-à-dire New Yorkais et Portoricain, et puis l'argot noir, évidemment. Et c'était en se spécialisant là-dedans, j'avais toujours du boulot.
Il y a aussi cette dimension déviant, dans le sens où la poudre, pour moi, évoque les États-Unis, et la Russie, c'est l'alcool. C'était vraiment un pays d'alcooliques, enfin, de façon phénoménale, quoi, comme, un peu comme l'Irlande, disons que ça... Ça, c'est une grandeur statistique. Et tu dis qu'avec Limonov, par exemple, vous buvez une bouteille de vodka et on a l'impression que tu parles d'une bouteille d'Orangina. Tu vois que c'est quand même... quand on a un peu l'expérience de ces choses, c'est pas si évident que ça.
Effectivement, l'URSS était massivement alcoolisé, quoi qu'il y ait quand même des drogues qui circulent, mais dans des petits milieux, à savoir la bohème artistique et les criminels. Mais dès que le mur est tombé, il y a eu un raz-de-marée de drogue et c'est devenu tout de suite un problème énorme, ce que ça n'était pas avant. J'ai travaillé là-dessus justement pour mon livre sur les drogues en Ukraine. J'ai travaillé sur l'histoire du RSS, l'histoire des drogues en URSS. C'est pour ça que je me permets d'en parler. C'est de véritables informations. Mais les camés que j'ai rencontrés en Ukraine, donc, on était, 14, 13 ans après l'indépendance. Ils me racontaient que dans leur jeunesse, quand ils allaient chez le dentiste, comme c'était l'URSS, c'était un petit peu en arrière, un petit peu en retard, il n'y avait pas la ligne cocaïne, c'était de la cocaïne pure qu'il y avait dans les bocaux. Et que donc, ils s'en mettaient plein la tête. Il y a une autre Et une autre histoire anecdotique, mais qui a joué un grand rôle, c'est qu'il y a eu la campagne anti-alcoolique, justement, de Gorbatchev en 1985. Et là, régime sec pour tout le monde. Donc, les alcooliques, c'est-à-dire tout le monde, ils se sont mis à casser les pharmacies pour avoir de l'alcool. Et dans les pharmacies, ils ont trouvé autre chose.
C'est extra.
Ça fait partie de la façon dont la toxicomanie s'est répandue dans ces endroits-là.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Mais ils disent que l'alcoolisme a régressé en Union soviétique, en Russie. Et donc c'est l'alcoolisme, c'est la drogue qui l'a remplacé.
Chez les jeunes, oui.
Chez les jeunes, oui, c'est ça.
Chez les jeunes, oui, il y a un gros, problème, oui.
J'imagine qu'il n'y avait pas de hachis. Bon, moi, j'ai été en 74, par exemple, et je n'ai pas jamais pensé au hachis quand j'étais là-bas. Enfin, ça n'avait aucun sens.
Pourtant, il y avait des cultures traditionnelles en Ouzbékistan, au Tadjikistan, enfin, dans l'Asie centrale, quoi, tout ce qui est à côté de l'Afghanistan. Ouais. Ils en consomment traditionnellement, je ne sais pas, comme au Liban.
Oui, bien sûr. Non, j'étais pas aux marges de l'Empire, j'étais au centre de l'Empire, genre Leningrad, Moscou, puis traverser l'Ukraine, tu vois, vraiment.
Oui, ça devait pas être facile, à trouver, mais enfin, ouais. Le célèbre chanteur Vladimir Vysotsky, il est mort d'overdose quand même, en 1980. Donc, y avait quand même un trafic.
Et donc tu fais référence à Trotsky, par exemple, ex-situationniste, on dit Trotsky, si tu penses.
On dit Trotsky, je crois.
Trotsky, oui. Tu fais référence à Trotsky, et donc c'est le l'ange par excellence, le symbole par excellence de ses excès. Un Bourseiller lui a consacré un livre. Est-ce que tu as lu le livre de Bourseiller sur Trotsky?
Ah non, je ne lis pas les livres de ce mec-là, non.
Et donc, parce que c'est
pas
vraiment...
question.
Alors, il infecte le livre. J'ai fait une pige extrêmement violente contre ce livre.
C'est un mec infect, donc c'est pas très étonnant. Vraiment, non,
c'est complètement...
J'ai connu Trotsky complètement différemment. Ouais. Je suis tombé dessus à New York, sur le livre de Carin à New York, ouais, que j'avais lu et qui m'avait complètement passionné. Et après, Michel Bulteau m'a parlé de lui, parce que Michel Bulteau l'a connu peu avant sa mort, à Londres. Il était bouquiniste, ça avait l'air assez misérable.
Et voilà encore, c'est une espèce de... Tu es vraiment une espèce de chroniqueur, j'ose plus dire la marche, parce que ça n'a pas de sens, mais des excès refoulés de cette société. Et Bulteau est aussi quelque chose comme ça, une espèce de... d'ange de la marche, quoi. Enfin, c'est l'idée d'une marche en même temps très mondaine, très réussissante, mais une image éblouissante de la marche, quoi.
Bulteau, ouais.
Hein, Bulteau, c'était...
Moi.
Bon, moi, j'ai mangé avec lui à la rue Cujas, par exemple, et j'avais une arnaque qui consistait à diviser très vite l'addition, parce que j'avais jamais d'argent, et à pas me compter, donc j'allais pisser, et les gens payaient, et j'étais à la rue Cujas avec Bulteau dans un restaurant, j'ai fait ça, j'ai été pisser, je suis revenu, et il y avait une embrouille, parce qu'il n'avait pas d'argent non plus. Et donc il ne pouvait pas payer sa part, donc j'étais démasqué. Et il habitait en banlieue à l'époque, et il rentrait à pied, ça de penser à Eric Satie ou à des choses comme ça. Le mec, il devait faire 5-6 km pied pour rentrer chez lui, enfin, parce qu'il ne voulait pas se payer un taxi. Donc, c'est cette image-là que j'ai gardée de Bulteau. C'était un petit peu... Là, ce que je raconte, c'est 79, je pense, ou 80. Tu
vois. Ah ouais, moi, je l'ai connu en 90. Il habitait au Faubourg Saint-Honoré. Il avait des vestons très chers.
Dandy, ouais.
Donc ça a bougé, quoi, les moments, parce qu'il a fait son journal avec Mitterrand, Duras, etc. Ça a tellement bien marché.
Il se prenait un peu pour Brian Ferry.
C'est drôle, hein. C'est drôle. Et donc oui, alors si on reprend ton livre, en fait ton livre suit la chronologie de ta vie, en fait, raconte les événements principaux.
C'est pas très chronologique, ça va en avant, ça revient en arrière, c'est pas très chronologique.
Comment
tu
l'as structuré alors?
C'est plutôt par thème. Ben, je l'ai structuré d'une façon assez simple. C'est un chapitre sur mon enquête rétrospective sur mon père et ma mère, et un chapitre plus ou moins, et un chapitre sur complètement autre chose, que ce soit mes voyages, la traduction, la poésie, et mon itinéraire aussi littéraire et intellectuel, parce que c'était très important. Si je n'avais parlé que de ma petite affaire familiale, je me serais vraiment ennuyé à l'écrire. Donc c'est pour ça que j'avais envie de parler tout un tas d'autres choses. Et c'est un très bon prétexte pour une autobiographie, une histoire comme ça.
En même temps, tu en parles quand même pas mal des rapports familiaux avec tu pourrais peut-être nous les décrire. Il y a 4-5 personnages.
Oui, ma mère évidemment, qui a jamais voulu l'admettre, et sa sœur qui m'en a parlé, et le fils de Marignac A, qui était un alcoolique.
Marignac lui-même.
Marignac lui-même, la statue du commandeur, comme m'a dit Pierre-François Moreau tout à l'heure. et mes demi-sœurs, qui sont en demi-teinte. Demi-sœurs, demi-teinte.
Et donc on a... et ta tante, on l'a mentionné.
Je viens de le dire. Ouais. Oui, et ces personnages-là. Et finalement, ce dont je me suis rendu compte a posteriori, c'est que le mensonge sur ma naissance a tout structuré d'une certaine manière dans cette famille, quasiment quoi. Ils sont tous constitués à partir de ce mensonge-là, premier. Et c'était drôle de se rendre compte de ça.
Et ça ne passe jamais quoi, ça revient régulièrement. Enfin, ça, au moindre incident qui est relié, il se repasse quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une discussion qui s'engage et qui n'a pas lieu. C'est à nouveau refoulé, il y a des événements, c'est du Shakespeare, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, c'est Hamlet qui marche dans le cimetière,
c'est le roman
qui
de l'absence,
parle avec
oui.
son père mort et qui dit, etc. Et puis qui insulte sa mère, et puis sa mère nie, elle nie pas. Ça vibre, ça continue à être là, ça continue à travailler.
Oui, mais c'était inévitable que à un certain moment la situation se tende, quoi, et qu'il y ait une ambiance de drame, sans que je puisse vraiment mettre le doigt dessus. Et aussi, je crois peut-être que mon éloignement, ma distance par rapport à ça, ça s'explique également par ça, c'est-à-dire j'avais envie d'éviter le mélodrame, quoi. Et c'était parfaitement un mélodrame, même dans l'origine, parce que vraiment, le monsieur d'âge mûr qui séduit la jeune femme et qui revient chez Bobonne après, c'est l'écho des boniches, quoi. C'est un truc d'une banalité désolante.
Mais il y a le mensonge, tu vis longtemps dans le mensonge, tout ça. Et puis il y a la façon dont tu aurais pu finir, ça aurait pu être tragique tout de suite en fait. Tu aurais pu aller dans le mur très tôt en partant de chez toi à 16 ans et puis à faire des excès, finir à l'HP. Enfin, on connaît quand même beaucoup de gens qui se sont suicidés, qui sont morts d'overdose. Tu les as fréquentés, tu le sais. Mais... Et toi, tu te reprends en main, tu arrives à maîtriser la chose.
D'abord, j'ai eu pas mal de chance, je crois, parce que j'ai rencontré des gens, comme Daniel Malrin, par exemple, qui m'ont montré que la vie, c'était pas forcément mon nihilisme de petit sauvage, là. Et après, j'ai eu peur. Mais c'est bien la peur. En boxe amateur, on dit il faut avoir peur, c'est ça qui te fait taper sec. Et c'est bien la peur, parce que j'ai eu peur. Et donc, je me suis dit, non, il faut que ça s'arrête, là, parce que je ne vais pas... Et après, évidemment, une fois qu'on a réussi à soigner, en plus, c'était quand même assez dantesque, cette décroche, là, tout seul, dans cet appartement, avec des calmants qui ne calmaient rien du tout, et des vitamines, quoi.
Tu restes combien de temps dans cette situation ?
Une semaine, 10 jours. Et une fois qu'on a réussi à faire un truc comme ça, là, on se dit, bah, je peux faire quand même pas mal encore d'autres choses, parce que j'ai surmonté un gros obstacle.
Ça donne confiance en soi.
Oui.
Daniel, tu veux nous dire quelque chose ? Qu'est-ce qu'on manque ?
Oui, enfin, parce que tu disais, Thierry, roman de l'absence, hein, c'est une bonne définition. Moi, je dirais que... justement à partir de cette définition que c'est un livre extrêmement littéraire, hein, et donc le style a une importance cruciale. Alors, effectivement, on aborde souvent des histoires. Thierry raconte énormément d'histoires, il raconte énormément de personnes, énormément de rencontres, mais il y a cette trame, ce roman de l'absence, qui est porté par le style, et c'est ça qui est par-dessus tout envoûtant, et qui fait que, en fait, de paragraphe en paragraphe, on a l'impression d'avancer toujours dans une histoire qui pourtant est faite sur un mode répétitif. Et donc, en fait, ce roman de l'absence, moi, c'est tellement littéraire pour moi que j'aurais envie de dire que, pour moi, ça ressemble à quelque chose qui serait une sorte de blues littéraire. Voilà. Il y a quand même dedans, on est emporté par quelque chose, mais il y a quand même, la vie qui trime, ou il trime, qui est une vie qui est dure. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai envie de dire ça tout d'un coup. Pour moi, Thierry a un style absolument singulier. Il n'y a pas deux écrivains qui ont le même style. Voilà, et ça, c'est quelque chose de frappant, et on est pris, en quelque sorte, par son savoir-faire, je dirais, musical, poétique, au-delà de tous les contenus qu'il y a dans ce bouquin, quoi.
D'accord, merci. Oui, je pensais, quand on parlait de désintox, je pensais à John Coltrane avec sa femme à genoux, Alice dans la cuisine avec sa mère, et il est dans une pièce et il se désintoxe de la cam, et elle prie, et ça m'a toujours tellement touché, et c'est tellement ça.
C'est dans le film de Clint Eastwood, non ? Ah non, c'est pas...
Non, alors c'est une anecdote que j'ai lue dans une biographie de Coltrane, mais c'est ces deux femmes à genoux qui prient pendant tout le temps, où il fait sa désintox dans la cuisine, je trouve c'est tellement sidérant, tu vois, Et c'est le contraire, oui, même de ce que tu racontes, en fait, sur les familiaux et tout ça. Là, c'est une communauté, une fraternité très forte, très, très assumée. Donc, nous étions avec Thierry Marignac pour Photo Passé, qui est paru à la Manufacture du Livre et qui est sorti déjà, mais récemment.
Et il est sorti au début novembre.
Il est sorti au début novembre, oui, voilà, on est le 5.
Non, il est là.
Hein. Il est le 5 novembre, donc il est dans toutes les librairies.
Foncez l'acheter.
Tu vas faire une signature. T'es là pour une signature, parce que tu habites à Bruxelles.
Non, je suis là pour Radio Aligre, bien sûr.
Mais c'est très bien, merci à toi.
Aligre FM 93.1. Thank you.
Nous sommes sur Allegre FM 93.1. Et ce matin, nous allons parler d'un livre magnifique qui s'appelle Tantra Sankh, peinture tantrique du Rajasthan, choisi et présenté par Franck André Jem, qui vient d'être publié à l'Atelier Contemporain. Et pour parler de ce livre, nous avons le plaisir et la chance d'avoir dans le studio Monsieur René Ego, qui a écrit la préface. C'est ça, j'étais en train de tourner les pages. Préface de René Ego à Tantra Sankh, peinture tantrique du Rajasthan. Bonjour.
Bonjour Yves Tanré.
Et donc, de quoi parle-t-on en fait ? Qu'est-ce que la nature de cet ouvrage ? Qu'est-ce qu'il contient ?
Bien, c'est un livre écrit par un poète, Franck-André Jem. Et s'il n'est pas là aujourd'hui et si je suis à sa place, c'est parce que Franck-André Jem est mort il y a 3 ans. Et ce livre est consacré à des peintures très secrètes dont Franck-André Jem était un des spécialistes qu'il allait chercher au Rajasthan, donc dans l'ouest de l'Inde. Et une partie de sa vie a été consacrée à la recherche et à la collecte de ces images qui ne sont pas destinées à être visibles. Ce sont des images de méditation que les adeptes du tantrisme, qu'on appelle les tantrikas, vont punaiser sur un mur, dans une petite cella, dans leur petit sanctuaire privé, afin d'accéder par le biais d'une méditation visuelle à la divinité.
Et donc il y a toute une histoire le livre s'ouvre, enfin l'histoire de Jem et des peintures de Tantrika s'ouvre par au moment où il réalise la Pléiade de René Char, et René Char va lui offrir un voyage aux Indes.
C'est ça, Franck André Jem avait vu à la galerie Le Point Cardinal dans les années 70 quelques images un peu différentes de celles qu'il allait collectionner dans une exposition qui était préfacée d'ailleurs par Henri Michaud et accompagnée d'un texte d'Octavio Paz. Donc on voit bien qu'il y a tout de suite pour lui un lien entre la poésie et ses peintures. Et quand il termine le travail qu'il a fait à la demande de René Char pour l'édition des œuvres complètes de Char dans la Pléiade, il va partir en 1985 chercher des peintures. Ça fait déjà un certain temps qu'il est sur la piste de ces images et qu'il ne les trouve pas. Et en 1985, c'est là où cette histoire qui va toujours accompagner sa vie de poète est aussi une sorte de roman un peu dramatique. Lorsqu'il se rend à Jaipur en autocar en 1985, il est victime d'un grave accident de la circulation dont il va revenir avec de multiples fractures. Et c'est pendant sa convalescence qu'il va écrire l'un de ses livres de poésie les plus célèbres qui s'appelle « La récitation de l'oubli ». Il va l'écrire sur le lit où il est hospitalisé à Paris. Néanmoins, comme toute personne qui est tombée d'un cheval, il faut remonter sur le cheval sauf à ne plus jamais en faire. Il va repartir au Rajasthan et dans une enquête qui a quelque chose parfois de presque d'une enquête policière, il va commencer à rencontrer ses premiers adeptes du tantrisme qui vont lui confier quelques-unes de ses images. Et c'est ainsi que dans l'exposition mémorable qui s'appelle « Les magiciens de la Terre » en 1989, Franck-André Jem présentera quelques-unes de ces images tantriques.
Il y a quelqu'un qui va voir et qui est un gourou, un prêtre, quelque chose de cet ordre-là, qui lui dit que l'accident de car qu'il a eu lui permet de rentrer en contact avec les tantranikas parce qu'il a réglé ses comptes avec les divinités indiennes, avec Shiva. Il a rencontré Shiva. Il y avait 7 morts autour de lui dans l'autocar. Donc Shiva a frappé, elle l'a épargné, et donc c'est un signe que les dieux sont avec, enfin qu'un dieu en tout cas est avec lui.
Oui, c'est un peu ça. L'histoire est magnifique puisqu'il rencontre un homme qui est en fait un antiquaire par le biais de connaissances communes. Cette personne lui demande de se laver les mains dans une vasque de sable. Et comme on le fait en Inde, on va regarder les formes dessinées, laissées par l'écoulement du sable dans la vasque. On va les interpréter et c'est ainsi que cet homme va lui dire « Vous avez de la chance », ce qui était assez paradoxal alors que Jam était revenu quand même très grièvement blessé d'un accident d'autocar. Mais lui dit-il, alors c'est pas le dieu Shiva, mais c'est sa compagne Kali, hein, qui était un des avatars du principe féminin dans le tantrisme et qui est une déesse de la passion, mais aussi de la colère. On l'appelle parfois Kali la Noire. Et c'est elle qui finalement l'a épargné. Et donc il a effectivement réglé sa dette à la déesse et autorisation lui est donnée de rencontrer des tantrikas, ce que cet homme va faire en lui confiant les adresses de quelques-uns de ses adeptes.
Et sa quête sera longue, mais il ne faut pas qu'on oublie, peut-être qu'on pourrait maintenant essayer de décrire ce qui est le noyau dur de ce livre, ce qui sont son rayonnement cosmique, le choc qu'on a quand on le reçoit et qu'on l'ouvre et qu'on tombe sur la première peinture qu'on voit, on a un sentiment hallucinant de voyage à travers le temps, quelque chose d'absolument magnifique, avec une très très grande économie de moyens. Est-ce que vous pouvez nous décrire oralement ce qui se passe et de quoi on parle là ?
Alors on parle de peintures qui ne sont pas très grandes, qui font environ 30 cm de haut par 20 de large, si bien qu'elles sont reproduites à peu près à leur format dans le livre Tantra Song. Ce sont des peintures qui sont faites sur des papiers assez pauvres, que les tantrikas choisissaient parmi des papiers un peu anciens. Comme si, alors quand je dis anciens, c'est-à-dire quelques dizaines d'années, pas plus. Et d'ailleurs, parfois, on voit au revers ou par transparent sur ces papiers la trace manuscrite de graphie. Donc il y a ce côté d'un papier très économe. Et puis, les formes qui vont être peintes, elles relèvent d'un registre très précis. Et ce sont des formes simples, abstraites, qui montrent que l'abstraction dont on considère historiquement que l'Europe en est le lieu d'invention, eh bien pas du tout, cette abstraction, elle existait déjà dès le XVIIe siècle en Inde, et on a des peintures qui sont effectivement stupéfiantes à la fois par leur économie, mais aussi par le fait qu'elles évoquent immédiatement pour nous certains registres formels qui sont ceux que vont explorer notamment les futuristes russes. Et par exemple, il y a une image toute simple, qui représente un petit triangle noir et un cercle rouge. Alors on pourrait penser à El Lissitzky en regardant ces deux motifs. Simplement, ce n'est pas simplement un motif abstrait, c'est aussi quelque chose qui est une voie vers la méditation en direction, notamment ici, de Shiva et de Kali. Kali est représenté par ce petit triangle noir dont une pointe est dirigée vers ce cercle rouge, qui lui représente le principe masculin incarné par Shiva. Mais il y a des tas d'autres formes, il y a ce qu'on appelle des lingas, qui sont des formes ovoïdes symbolisant la puissance sexuelle de Shiva, mais on peut avoir d'extraordinaires réseaux de petites flèches en tous sens, qui sont l'expression de la danse des énergies. Et c'est à la fois la danse des énergies cosmiques, mais aussi les énergies qui nous traversent, puisque ce qui est merveilleux dans le tantrisme, c'est que ça n'est pas simplement une spéculation métaphysique, c'est aussi une discipline cherchant le lien, la coïncidence entre les énergies individuelles, physiques, qui nous habitent, qu'elles soient mentales, ou qu'elle soit de l'ordre de notre puissance musculaire, et ces énergies cosmiques qui sont l'expression des divinités.
Il y a quelque chose d'absolument hallucinant là-dedans. Je pensais à Paul Klee, qui, sinon, ça n'est jamais mentionné dans les références. Il y a une demi-douzaine d'artistes modernes qui sont mentionnés, genre même Buren ou Martin, mais ça parle de l'essence de l'art, comme votre livre précédent qui m'avait bien bluffé, qui s'appelle « Le geste du regard » et qui parlait de la préhistoire. On retrouve quelque chose, c'est les travaux que Klee faisait sur les mécanismes simples et à la fois sur tout le côté Benjamin, Walter Benjamin de Paul Klee. Et là, vraiment très très actif. Je trouve qu'il y a dans ses peintures quelque chose, oui, de minéral actif, radioactif. C'est quelque chose qui... Ça fonctionne exactement comme votre livre sur la préhistoire. Ça fonctionne très fortement sur l'essence de l'art et sans aucun pédantisme, avec une grande économie de moyens. Enfin, c'est quasiment l'image même de la sublimation. Et évidemment que si j'ajoute la méditation, que j'imagine que je fais une image subliminale sur laquelle je médite, on est dans une espèce d'abstraction, et si on y ajoute la vague idée qu'on a d'un cosmos indien extrêmement chargé en redondance et en signes infinis et en bruit et en mouvement de la rue, parce que j'essayais de me souvenir de ce livre que j'avais lu très jeune, un petit peu comme j'avais lu Valérie Degas, Danse, Dessin, et c'est un livre qui a changé ma vie. Et dans la même collection, il y avait un livre sur les sculptures indiennes qui était extrêmement voluptueuse. Enfin, les formes de ces femmes, c'était un idéal féminin, mais vraiment la courbe des fesses, le volume des seins et cette fermeté, c'est cette espèce de chose absolument splendide, transcendantale. Il y a quelque chose, peut-être que mais même des mots très plus simples, c'est très simple en fait, donc c'est très très économique. Et si on arrivait à redonner une profondeur à un mot comme magique, on a des yeux d'enfant quand on voit ça. C'est magique. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Non,
vous avez raison. Mais avec ces peintures tantriques, celles qu'a collectées Franck-André Jam, on a le versant, je dirais, abstrait, essentiel, de quelque chose qui est aussi une histoire sensuelle.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Quand je vous décrivais cette petite peinture avec un triangle noir et un cercle rouge, c'est aussi une parade amoureuse. Alors le hasard fait que lorsque je vais en Inde en 1988, je suis tout jeune, je vais aller aussi à Jaipur et à Udaipur, Rajasthan, mais je ne connais pas ce versant-là du tantrisme. En revanche, je vais me rendre dans le centre de l'Inde, à Khajuraho, où il y a des temples qui sont extraordinairement décorés de cette statuaire célèbre pour son érotisme, et où là, la dimension des énergies sexuelles et cosmiques s'incarne dans des formes sculpturales qui sont absolument prodigieuses. Et c'est la raison pour laquelle on regarde parfois le tantrisme en le réduisant à la forme égrillarde d'une technique sexuelle. Alors que le tantrisme est un versant spéculatif extraordinairement intellectuel à l'intérieur de l'hindouisme. Et les peintures qu'a collectées Franck, eh bien, elles sont le point d'intersection à travers des formes abstraites où la dimension sensuelle, incarnée, charnelle de l'existence et les dimensions les plus métaphysiques de l'existence coïncident dans ces formes abstraites. Et j'ajouterais juste une chose quand même, c'est que si nous parlons de peinture, nous parlons aussi d'un livre qui a été écrit par un grand poète, qui a accompagné ses peintures d'une parole qui est à la fois formidablement précise et en même temps formidablement aérée, accessible, nous permettant de comprendre ces images, de décrypter un petit peu le discours qu'elles véhiculent, que ces formes véhiculent.
Quand on voit certains des dessins ou des peintures de Malevitch, on retrouve cette construction en oblique et on a un dynamisme. On comprend, par exemple, enfin, c'est la mise en forme d'une idée dynamique et on la comprend sans passer par les mots, sans passer par les concepts et tout. Et là, de la même façon, on est dans ce dynamisme et même un cercle au milieu d'un rectangle. Effectivement, a une très grande force de profondeur. Tout ça se dégage dans une très grande profondeur. Alors, on peut prendre le côté poétique, là. Donc, il y a par exemple la phrase « Sur la palette des désirs sèche le pinceau de la vie ». Ce côté-là, il y a un côté ludique aussi. Dans le livre, l'impression qu'on a, c'est que Jane arrive toujours quand même à garder un côté ludique. Ce qui est emmerdant quand on parle aujourd'hui en France de poésie, c'est le côté poseur, le côté pédant, le côté... Et là, on a un côté, comment dire, enfantin qui
souriant.
Reste. Souriant, enfantin, assez dégagé des contraintes, comme ça, quelque chose d'amical. Ça fait un pas vers nous et ça nous prend dans ses bras quand même, ça nous berce un peu.
Oui, j'aime bien le mot que vous utilisez, le mot « amical ». Je trouve qu'il est assez juste pour définir la complicité que Franck a inventée avec ses peintures et que, je crois, le livre restitue bien. Il y a une dimension d'amitié qui est aussi le fruit d'un très long voisinage, puisque ses peintures, il les a cherchées et collectionnées toute sa vie. Et une fois encore... L'Inde et ce travail sur les peintures n'était qu'une partie de sa vie. Mais c'était comme l'avers ou le revers de son activité d'écrivain et de poète et d'homme qui voyageait par ailleurs dans des tas d'autres pays, et notamment aux États-Unis où il avait reçu un accueil parfois plus grand et plus chaleureux que celui qu'il connaissait en France. Par exemple, La récitation de l'oubli est un livre qui a été traduit aux États-Unis par le grand poète John Ashbery. Donc ça n'est pas rien.
Je viens de parler d'un livre de Bukowski, un inédit sur ses poésies sur les chats. Et le fait qu'il soit connu comme poète aux États-Unis est tellement étrange vu d'ici. Donc pour nous, c'est un écrivain et on le situe très bien. Et c'est une révélation, c'est la révélation des années 80 en France. C'est que c'est un scoop, c'est quelque chose. Et pour les Américains, c'est prose, c'est quelconque, c'est dans le tout venant, alors que ces poésies sont importantes. Et c'est cette dimension-là qu'on ne comprend pas.
C'est un petit peu le cas pour Jim Harrison, par exemple.
Ouais. Et donc on a, oui, et je pense Ginsberg, enfin pour la génération précédente, évidemment, quoi. Mais donc on a ça avec Jim, il est... Est-ce que vous connaissez, par exemple, des vers de lui de tête ou...
Non, mais si vous voulez, je peux vous lire l'un ou l'autre extrait.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, oui, est-ce que sa prose, plutôt ses vers, ont quelque chose de... Eh bien, qui échappe au courant dominant français
Mais bien sûr, et je pense que la poésie de Franck-André Jammes, elle est très claire, elle est très narrative... Et en même temps, elle a toujours quelque chose qui, dans sa clarté, vient de sa volonté d'abstraire, d'aller vers l'abstraction, d'aller vers quelque chose qui est lucide ou qui est de l'ordre d'un mouvement d'élucidation de la pensée. Alors je prends tout à fait au hasard, comme ça, une page tirée de La récitation de l'oubli. Donc c'est un livre qu'il écrit alité, alors que son sommeil est totalement bouleversé. Pendant 6 mois, il dort 4 heures, puis il se réveille.
Il est sur un lit médicalisé.
Il est sur un lit, ouais, avec 7 fractures. Il dort 4 heures, il se réveille, il écrit un peu, il redort, comme ça. Alors je lis. À mon tour, je voyais le prince. À peine sortait de son ébauche, seule sa tête était présente. L'esprit aussi s'assouplissait. Il pouvait quelquefois prendre la forme des objets, vraiment les dire. Mais si la porte forçait le seuil, il retournait à son argile, se penchait vers son ange. « Tu dors ?» lui disait-il. « Pas les choses. Essaye de t'éveiller. Montre-toi au moins une fois que je me pose enfin. » Et l'autre ne répondait pas, ne semblait plus qu'un remous. Pourtant, tous deux étaient le monde, son unique question.
Et donc, alors ça fonctionne comment tout, quelle est la cohérence de l'ensemble, le Tantra Song, et puis quelle est la musique de l'ensemble, oui.
Alors, le terme de musique est très important. Tantra Song est un livre qui a été composé et conçu par Franck comme un poème spatial. Mais il est musical en ce sens que chaque pièce est à sa place, à la fois autonome et reliée aux autres par un jeu d'écho et d'harmonique. La cohérence, il ne faudrait pas non plus la pousser trop loin. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas faire de la poésie de Franck en avoir une vision indianisante, de même qu'il ne faudrait pas regarder dans Tantra Song un livre qui serait un livre poétique. Il y a une tension entre le monde des images et le monde des mots que l'on retrouve dans le tantrisme, puisque le tantrisme a aussi toute une réflexion extraordinairement riche sur l'énergie de la parole. Pour reprendre le titre d'un livre d'André Padoue, le grand indianiste, qui dans le livre Tantra Song, qui est présent dans Tantra Song par un court texte. Donc je ne chercherai pas à vouloir superposer les peintures tantriques et la poésie. Ce sont deux univers, celui des images et celui des mots, qui sont en relation, qui sont en dialogue.
Il y a un moment, il explique image par image, il légende, et là on retrouve justement presque le bruit de l'Inde, de la rue, ça devient, on change totalement de registre, le bruit et l'odeur, là, comme disait l'autre.
Tout à fait. Le livre, pour le décrire en quelques mots, il est composé d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de reproductions en pleine page de ces images tantriques, je ne les ai pas comptées, auxquelles sont associées un ensemble de légendes, mais j'aime bien ici le mot de légende parce que c'est à la fois de courtes analyses des images, mais qui nous ouvre aussi à la dimension légendaire de ces images, à leur dimension religieuse, mais aussi parfois à l'histoire qui a accompagné la découverte de ces images par Franck. Et puis, le livre se poursuit avec deux grands textes, enfin, qui ne sont pas forcément très très longs, que Franck a consacré au tantrisme et dont les titres sont très beaux. L'un s'appelle « Ébauche de clé » et l'autre s'appelle « Sans titre ou peut-être ciel ».
Oui, donc c'est vrai qu'il y a aussi une grande économie. Et là on sort de l'économie. Je sais pas, je pourrais lire très vite un passage, mais « Ici se dévoile le règne de l'énergie et de sa spirale dans un linga de ciel » pour la seule adoration de Shakti, et comme si l'immobilité de Shiva, son amant, pouvait être douée soudain de paroles grâce à sa divine compagne. Comme si cette spirale était aussi la bouche du dieu, de sorte les syllabes de lumière. Avec cette pièce, l'adepte sera certainement aussi enclin à la récitation de quelques mantras dédiés à la déesse, ne sera que poussé à l'énonciation de l'ardent. Et donc, il faut bien voir que ce qu'il décrit, ça peut être juste un cercle posé sur un espace vide. Ça peut être. Et dans ce cercle, il peut y avoir une spirale. Il peut y avoir un triangle et un rond à côté. Donc, on retrouve C'est un espèce de coup de force. Il y a un retour d'un monde grouillant dans quelque chose qui se donne comme étant hiératique, en fait.
Qui est surtout très simple. C'est-à-dire c'est un registre de formes simples.
Mais oui, les dieux et les déesses indiennes sont tout sauf simples.
Oui. Oui, d'abord, il y a une profusion. Je me souviens que Salman Rushdie avait dit qu'il avait commencé à les compter et qu'il s'était arrêté quand il était arrivé à 3 millions.
C'est du Borges.
Voilà. Alors que là, les divinités sont réduites à quelques formes pures, des ovales, des spirales, des cercles, des triangles, des nuages de points, des nuages de flèches, mais qui sont toujours recomposés. Toujours réagencé. Puis il y a une chose dont il faut parler, c'est la couleur. Car ces peintures, d'un point de vue technique, elles sont faites avec de la gouache ou avec de l'aquarelle, mais les couleurs ont un sens. Par exemple, le bleu, c'est la couleur de la conscience. Et plus le bleu va être clair, et plus la conscience va être pure. Mais parfois, la conscience est troublée. Alors ça va être un bleu sombre, et puis à l'intérieur de ce bleu sombre, il va y avoir une spirale, et cette spirale est susceptible d'être le tourment, ou au contraire, l'énergie de l'élévation de la conscience.
Il y a un bon exemple dans la fabrication de la couleur, intervient des éléments naturels, et il peut y avoir de la bouse de vache. Et donc on a là la contradiction, le moteur vivant de la chose, on a de l'abstraction, donc très abstraite et très conceptuelle, faite avec de la bouse de vache.
Mais ça n'est pas contradictoire. Voilà. Ça n'est pas contradictoire.
Peut-être qu'il n'y a pas de contradiction, en fait. Il n'y a que du mouvement.
D'abord parce que la vache est un animal sacré entre tous en Inde, mais qu'avec l'utilisation de la bouse de vache, eh bien, on va avoir quelque chose qui va permettre de partir du plus humble, du plus prosaïque, pour atteindre, pour en sortir et atteindre à l'élévation même.
Et donc, merci beaucoup à Monsieur Renaud Ego, il faut que je prononce correctement, et donc de nous avoir présenté ce livre Tantra Song, peinture tantrique du Rajasthan, choisi et présenté par Franck-André Jam. Est-ce que je prononce bien le Jam?
Tout à fait.
Donc, parce que j'ai un peu écorché votre nom pendant l'émission et aussi le nom de Jam, le prononçant avec un vague accent anglo-saxon tout à fait déplacé. Et donc nous sommes le 26 décembre et nous allons bientôt arriver à l'année prochaine. Donc nous vous souhaitons bonne année. C'était Aligre FM 93.1. La vie est un roman. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.
Merci.
À l'année prochaine.
Merci Yves Tanray.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.